La diffusion de nos programmes va maintenant se poursuivre en français. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Prague. Comme chaque samedi, trois rubriques figurent au programme de la prochaine demi-heure. Comme tous les 15 jours, nous ferons donc le tri de votre courrier. Place sera faite également à la littérature avec aujourd'hui la présentation d'un thriller qualifié de néo-gothique par la critique. Il s'agit du roman Les Sept Églises, paru cette année aussi en français. Mais avant tout cela, place d'abord à une autre forme de culture. Yana Bokova est réalisatrice de films documentaires. D'origine tchèque, elle vit depuis des années à Buenos Aires, en Argentine. Comme beaucoup de Tchèques de sa génération, Yana Bokova a choisi exil en 1968, faute de perspective après l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie. C'est à Paris qu'elle s'établit d'abord, où elle fait ses études, avant de partir pour les États-Unis, où elle travaille comme photographe pour le magazine Rolling Stones. Elle poursuit des études de cinéma à Londres, et c'est le documentariste et ethnologue français Jean Rouche qui dirige son premier film d'études. Depuis la fin des années 1970, Yana Bokova, éternelle voyageuse, comme le sont souvent les grands exilés, sillonne le monde et tourne des films. Elle a filmé l'acteur hollywoodien Anthony Quinn, tourné avec Eric Clapton, s'est intéressé au tango argentin. Parmi son importante production, deux films en particulier retiendront notre attention aujourd'hui. Un documentaire sur la Havane, tourné en 1989, et Bye Bye Shanghai, un film très personnel à la rencontre de grandes figures de l'exil tchécoslovaque, telles que Petr Kral, Vlastimil Třešňák, Vladimira Tcherepkova et d'autres. Nous vous proposons donc une rediffusion de l'entretien que Yana Bokova avait accordé à Anna Kubishta au printemps 2010, c'était à Paris.
Culture sans frontières.
En 2005, Yana Bokova confiait à Magda Rosinkova que si elle ne s'était pas exilée, elle n'aurait jamais fait de documentaire. On l'écoute développer cette idée.
Je suis partie de Prague très jeune. C'est mon rêve de cinéma. J'étais à l'école. Parce que quand vous vivez votre réalité où vous êtes née, je n'étais pas inspirée pour la filmer. Et en plus, je pense que Prague n'est pas très filmique pour dire la vérité. Mais ça ne m'intéressait pas du tout. J'étais complètement dans le surréalisme, les choses un peu des rêves. Et quand j'ai fait l'école de cinéma, c'était une école excellente parce qu'on nous a laissé faire les films. Il a fallu faire les films. Donc, quand j'ai mis mes mains sur le premier projet, j'ai cherché l'histoire que j'ai voulu faire. C'était mon Tchekhov, que j'adorais tellement. Et je cherchais je le lis en russe quand j'étais petite, mais je cherchais la traduction en anglais. Je pensais que je me suis trompée de du livre, parce que c'était pas du tout ça. Et après, je me suis rendu compte que si, c'était ça, mais c'était complètement d'autres choses. Donc, et en même temps, j'ai commencé à rencontrer des gens à London qui étaient tellement tchéchoviens. Ils étaient là. Quand j'ai commencé à filmer, tous mes documentaires sont un peu tchéchoviens. C'est toujours les histoires très intimes, un peu la vie un peu loupée, de ne pas être au bon endroit et tout. Et c'est une autre vision de la réalité qui était nouvelle, qui m'est comme presque forcée. C'était aussi pratique parce que à l'école de cinéma, on n'a pas eu trop d'argent, mais on a eu des moyens bien. Hein. Mm-hmm. Mais au lieu de chercher un pauvre mauvais acteur à qui on ne pouvait pas payer, et trouver une merveille dans la vie. Et moi, j'étais en plus très amoureuse de caméra, donc je tournais mes films. Je me suis lancée dans cette ligne que j'ai un peu inventée, parce que c'était un peu très, maintenant c'est très connu, proche du cinéma direct, que je filmais les gens, leurs personnages, leurs histoires, directement. Mm-hmm. Maintenant, quelquefois, vous m'entendez dans le film pour compréhension de complexité du film. Au début, j'étais invisible, on ne m'a pas entendu. Et les gens, comment se donnaient. Et ça, je n'aurais jamais fait après, c'est impossible.
Depuis ses débuts, Yana Bokova filme toujours les marginaux, les décalés de la vie. En 2008, dans son film Bye Bye Shanghai, elle s'est attaquée à un thème très personnel puisqu'elle a filmé plusieurs grandes personnalités tchèques exilées, comme le poète Petr Král. Est-ce à dire alors que les exilés sont des marginaux, Yana Bokova?
Un exilé est un peu marginaux. Il fallait, pour moi, je pensais que c'était une honnêteté de ma part parce que j'aurais détesté prétendre que je suis anglaise ou française, c'est horrible. Je n'y serai jamais. Et en plus, ça me même gêne maintenant de dire que je suis tchèque, je le dis, dès que je vis à Buenos Aires parce que je me sens tellement bien à Buenos Aires que je peux dire que je suis tchèque. Parce que j'ai un déracinement vraiment extrêmement compliqué. Parce que les gens qui s'exilent dans un seul pays, en général, ils essayent d'être plus français que les Français. Ou plus, hein. Moi, je pas resté dans un pays. Je me suis exilée techniquement en France. Mais c'était pas possible de faire ce que je voulais faire, le cinéma et tout. Donc, en Angleterre, c'était possible, donc c'était Angleterre. Mais je n'ai jamais voulu vivre en Angleterre, mais malgré ça, j'ai vécu beaucoup d'années parce que l'école m'a amené de très beaux contacts. J'ai eu carte blanche pratiquement 10 ans avec BBC, faire mes fantaisies documentaires où j'ai voulu. Mais j'ai tourné des fictions quand même. J'ai écrit ma première fiction qui est Un hommage à Paris. Et qui, sans parler d'exil, est un film de l'exil. Où Fernando Rey joue le rôle principal, et Fabrice Lucchini, jeune, pas très connu à l'époque, il est là, Pérange Bonvoisin. Et puis j'ai tourné une autre fiction à Buenos Aires. C'est une inspiration de l'histoire courte de Julio Cortázar, qui también Julio Cortázar il est né à Buenos Aires, mais il se transfère à Paris où il vit 30 ans, il est mort. Tout le film, toute l'histoire est dans cette gamme d'une espèce d'un précipice entre de langue, de culture, de sentiments. Vraiment, des amitiés, c'est extrêmement douloureux pour moi voyager, par exemple, parce que j'ai beaucoup d'amis à Buenos Aires, j'ai beaucoup d'amis ici.
Dans ses discussions avec les exilés, Yana Bokova trouve-t-elle des points communs dans la façon dont ils voient leurs conditions? Réponse.
Les exilés comme Petr Král et comme Pavla Řezničková qui était ambassadrice et tout, non, quand ils parlent du retour, parce que j'ai jamais voulu retourner. Si c'était pas pour ce film, je n'aurais pas là, parce que ça me dérange. Sauf si on m'invite à un festival de 3 jours, ça m'a toujours dérangé comme idée de rester à Prague d'une longue durée parce que finalement je ne connais plus personne, je n'ai pas des amis et ça me dérange, ça m'est quelque chose parce que j'ai vraiment coupé. Et donc, mais avec les exilés qui traînent, comme Gringo, le fou, là, et Vladimir Cherepkova qui vit là-bas, ici, donc si, complètement. Mais avec les gens qui se sont décidés, oh, ils étaient forcés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient obligés à retourner pour les raisons économiques, parce que c'est paradoxe. Je ne connais pas le retour.
L'exil est évidemment un choix radical, un choix de vie, le bouleversement d'un univers. Tant d'années après, et au regard de ce qu'ont pu lui en dire d'autres émigrés, Yana Bokova estime-t-elle que son départ a été plutôt une souffrance ou une richesse?
Et les deux, parce que c'était une vraie richesse, et sans souffrir, je ne pense pas qu'on pourrait y arriver, mais c'est pas... Il n'y avait pas le temps de réflexion. Quand vous êtes dans une situation qui est extrême, il faut prendre une décision que je ne suis pas capable. Sur ma vie, je ne suis pas capable. Sur le film, si. C'est très dur. Et quelquefois, je me suis dit, si quelqu'un m'a offert, quand j'ai 16 ans ou 17 ans, que elle m'a dit, tu vas faire ça, j'aurais dit non, non, non. Mais en même temps, je ne regrette absolument rien. C'est tout très... Ça paraît complètement chaotique, mais c'est extrêmement cohérent. C'est très intuitif, donc tout va par sentiment. Donc, c'est ça.
Et ce n'est pas un hasard que Jana Bokova, la Tchèque exilée, ait choisi en 1989, au moment où le bloc de l'Est se fissurait peu à peu, de tourner un film à la Havane, aujourd'hui encore, plus que jamais, sanctuaire du communisme. Un documentaire pour la BBC qui montre la situation d'un pays qui n'a pas dû bien changer depuis.
Havane, c'était un film très spécial. Quand même, je pense que c'est un diptyque un peu avec Prague 20 ans avant. Parce que quand je suis arrivée à Havane, je n'étais pas du tout à Prague 20 ans. Et je me suis dit, oh là là là, et j'ai senti quelque chose dans l'air comme d'être à Prague au tropique. Donc, quand j'ai cherché le personnage, ils m'ont demandé d'où je suis. J'ai dit d'origine de Prague. Et ils ont dit, bon, tu comprends. Donc, c'était très, très difficile parce que j'ai fait une recherche et ils ont accepté parce que je ne filme pas n'importe qui, ça prend du temps à préparer. Et quand on a commencé à filmer, tous sont disparus. Il n'y avait personne. Je me suis dit, oh là là, déjà entamé, j'étais presque 2 mois à Havane, parce que quand même c'est un film presque 2 heures, il y a beaucoup de personnages, et je les ai perdus tous, parce qu'ils étaient, eux-mêmes par leur conscience ou par la sécurité de l'État, découragés, et ils n'étaient pas là. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'annule le film, mais je n'ai jamais laissé tomber. Donc c'était une aventure de James Bond. C'était pour chercher d'un jour à l'autre, pour quelqu'un, pour les gens qui collaboraient avec nous officiellement ne savaient pas. Non, c'était vraiment jusqu'au sorti, je ne sais pas qui me veut sortir, parce qu'on a filmé des choses que normalement, banalité cubaine, ça ne filme pas. Ça, quand on a tourné, on a eu derrière nous, à 10 mètres, toujours, 2 mecs baraqués avec les armes. Si, qui n'ont jamais rien dit, mais ils étaient là. Et ça faisait peur. Parce qu'en même temps, il y avait un photographe danois qui n'a fait que moi, qui photographiait la maison arbitraire. Et on l'a mis en tôle, on l'a interviewé de nuit, on lui a ramassé le matériel, on l'a envoyé chez lui. Et je me suis dit, il me laisse entamer encore plus, après ils vont faire ça, et Bibi s'y va dire, elle est folle, elle a dépensé, je ne sais pas combien d'argent, sans résultat. C'était vraiment très risqué, c'était le plus risqué du film.
Place maintenant à l'une de vos rubriques préférées, une rubrique dans laquelle la parole vous est laissée, le courrier vous est trié et présenté cette semaine par Alexis Rosenzweig.
Courrier des auditeurs, Alexis Rosenzweig.
Nazdar, bonjour, dobry den et bienvenue à l'écoute de cette émission consacrée à votre courrier. Une émission qu'on commence avec Frédéric et Hervé Briand, nos fidèles auditeurs de Talence. Bonjour à toutes et à tous, chers amis de la rédaction française de Radio Prague. Actuellement, très peu de temps à consacrer à l'écoute de vos émissions, si ce n'est celle du dimanche, et donc très peu de temps pour vous écrire. Nous avons bien entendu votre appel concernant le courrier des auditeurs. Cette rubrique ne peut exister que si nous la faisons vivre. Aussi, nous vous envoyons ce courriel pour vous assurer que nous sommes toujours à votre écoute. Beaucoup de bonheur aujourd'hui avec le quatuor Pavel Haas, mais surtout avec le magnifique quatuor américain d'Antonín Dvořák, que nous possédons dans une interprétation du Prajak Quartet. Également beaucoup d'émotion quand nous écoutons cette œuvre, car elle nous rappelle notre premier séjour à Prague, où nous l'avions écoutée dans la chapelle des miroirs du Clementinum, interprétée par le Stamik Quartet. Merci à vous Frédéric et Hervé Briand. Nous vous souhaitons un bel automne à Talence. Je continue avec un message adressé par notre fidèle auditrice d'Algérie, Myriam Sabine Amran. Bonjour, je viens par le présent email vous communiquer 2 fichiers au sujet d'une proclamation d'une journée mondiale de la radio par le conseil exécutif de l'UNESCO. L'UNESCO dont on a beaucoup parlé cette semaine avec des votes importants discutés. Et donc cette proposition, le conseil exécutif de l'UNESCO recommande de proclamer la journée mondiale de la radio en s'appuyant sur une étude de faisabilité réalisée par l'UNESCO suite à une proposition de l'Espagne. La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, suggère de choisir la date du 13 février, jour de la création de la radio des Nations Unies en 1946. Cette nouvelle journée mondiale devrait sensibiliser le public à la valeur de la radio, faciliter l'accès à l'information radiophonique et développer les liens entre radiodiffuseurs. La radio est un moyen de communication à faible coût, particulièrement adapté pour toucher les communautés isolées et les personnes vulnérables, les analphabètes, les handicapés, les femmes, les jeunes, les pauvres, et qui donne à tous, quel que soit le niveau d'instruction, la possibilité de participer au débat public. La radio joue aussi un rôle central dans les systèmes de communication d'urgence et l'organisation des secours après une catastrophe. À l'heure de la convergence des médias, les services radiophoniques évoluent et adoptent de nouvelles formes avec les technologies numériques, haut débit, portables, tablettes. Pourtant, il semblerait que près d'un milliard de personnes n'aient toujours pas accès à la radio. La date du 13 février, donc jour de la création de la radio des Nations Unies en 1946, a été proposée par la directrice générale de l'UNESCO. Le conseil exécutif recommande que la prochaine conférence générale proclame cette journée, donc, et soumette pour approbation la résolution finale devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, la conférence générale, je le précise, ça c'était le communiqué officiel de l'UNESCO. La conférence générale se termine le 10 novembre. On devrait en savoir un peu plus à ce moment-là sur ce projet de célébration de la journée mondiale de la radio. Je vous le rappelle, qui est proposé le 13 février. Et nous vous en dirons plus, nous vous tiendrons au courant, évidemment, sur Radio Prague. Voilà une suggestion faite par la directrice générale de l'UNESCO, la Bulgare Irina Bokova. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission consacrée à votre courrier sur Radio Prague, le programme en français. Je passe maintenant à un courriel qui nous est venu du Maroc. Il est signé Youssouf et il n'a pas indiqué son nom de famille. Il nous écrit de Rabat pour nous dire qu'il nous suit sur Internet et je suis très content de pouvoir suivre l'actualité culturelle et sportive de la République tchèque grâce à vous. Merci. Alors il nous pose une question, Youssouf, à propos des matchs de barrage que doit disputer la République tchèque pour se qualifier à l'Euro. L'Euro qui se dispute en Pologne et en Ukraine l'année prochaine, vous le savez. Eh bien le match de barrage c'est très prochainement pour la sélection tchèque et ce sera contre le Monténégro avec d'abord le match aller en République tchèque la semaine prochaine et 4 jours plus tard le match retour qui sera sûrement dans une ambiance assez chaude à Podgorica et ce sera donc 4 jours après le match aller. Après seulement les Tchèques sauront s'ils sont qualifiés pour cet Euro 2012. Ce serait une bonne chose pour l'équipe du gardien Petr Cech. Petr Cech, vous aurez peut-être la chance d'entendre. Il sera interviewé normalement par Guillaume Narguet dans une de nos prochaines émissions. Voilà, merci à Youssouf pour sa question. Et bien bonjour à Rabat. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité. Pour nous écrire, c'est très simple, par internet français@radio.cz, français sans cédille bien sûr, @radio.cz. Nous attendons toutes vos remarques, suggestions ou commentaires sur nos émissions, les émissions de Radio Prague que vous pouvez écouter, vous le savez, à toute heure de la journée et de la nuit sur notre site www.radio.cz et le programme en français de Radio Prague se poursuit. Je vous souhaite une excellente fin de week-end sur nos ondes.
Et puis comme chaque samedi, la dernière de nos 3 rubriques est la rubrique littéraire de Václav Richter, dans laquelle il est question d'un thriller néo-gothique. C'est en effet ainsi que la critique a qualifié le roman Setmi Kosteli, Les 7 églises de Miloš Urban. Ce livre où l'histoire côtoie la fantaisie et qui marie le roman gothique au genre policier a été traduit en plusieurs langues. Récemment, il est sorti aussi en France. Il s'agit d'une rediffusion de l'émission du 12 février 2011.
«
Rencontre littéraire. Ce sont les fantômes qui semblent jouer un rôle important dans la création littéraire de Miloš Urban, auteur de plusieurs ouvrages qui peuvent être presque tous qualifiés de romans noirs. L'auteur lui-même s'interroge sur les origines de ces lugubres inspirations.
Odkud přicházejí přízraky?
D'où viennent les fantômes? Je crois qu'ils viennent justement du subconscient. Ce sont des peurs enfantines qui ne nous quittent pas, même lorsque nous sommes adultes. Au cours de ces années que j'ai consacrées à l'écriture, j'ai trouvé une excellente façon de me débarrasser de ces peurs d'enfant. Quand on écrit sur ces peurs, on arrive tout de suite à vivre plus facilement avec elles. On peut dire que l'écriture est une psychothérapie, mais évidemment, il y a beaucoup plus de raisons pour écrire.
Né en 1967 à Sokolov, en Bohême du Nord, Miloš Urban passe sa jeunesse à Karlovy Vary. C'est cependant la ville de Doxé qu'il considère comme sa véritable patrie. Il étudie à la faculté des lettres de l'université Charles de Prague, puis fait un stage d'un an à l'université d'Oxford. L'influence de la littérature anglaise se fera d'ailleurs sentir dans sa création littéraire. Le premier ouvrage de Miloš Urban, intitulé « Le point final au manuscrit », paraît en 1998. Le livre, qui se présente comme une nouvelle littérature factuelle, exploite l'affaire des plus anciens manuscrits tchèques prétendument redécouverts au XIXe siècle, mais qui étaient en réalité des faux. En 1999, Miloš Urban publie « Les sept églises » avec le sous-titre « Le roman gothique de Prague », ouvrage inclassable qui situe une intrigue policière dans la nouvelle ville, quartier pragois fondé au XIVe siècle par l'empereur Charles IV. Peu à peu, le lecteur se rend compte que ce quartier n'est pas que le simple décor d'une intrigue policière, mais que ses vieilles maisons et notamment ses églises sont des éléments essentiels de l'histoire. C'est sur cette scène que l'auteur fait évoluer le héros de son roman, Kvetoslav Švach, un jeune historien raté, reconverti en policier, homme qui n'ose même pas dire son nom. L'histoire de mes malheurs a commencé le jour où j'ai reçu mon nom, et même quand je suis né, dit ce policier auxiliaire. Cet homme extrêmement complexé est traqué par le sort, et autour de lui se multiplient les meurtres les plus cruels et les plus incompréhensibles. Ce n'est que vers la fin du livre que Kvetoslav se rend compte qu'il se trouve au cœur d'un complot horrible et qu'il assiste à une révolution silencieuse et sournoise. Il commence finalement à réaliser que devant ses yeux, l'histoire rejoint le présent et que de cette rencontre meurtrière naîtra quelque chose d'inattendu. L'atmosphère oppressante de ce roman, situé à la fin du XXe siècle, rappelle la littérature décadente et symboliste de la fin du XIXe. Miloš Urban est-il donc un décadent? Il ne cache pas ses sympathies pour les auteurs de ce genre.
Si je me voyais en cette sympathique compagnie, ce serait probablement parce que j'aime le passé et aussi peut-être parce que j'ai peur. Je crains, comme les décadents, que quelque chose ne soit en train de finir et je crains encore plus que quelque chose n'arrive, quelque chose que je n'aimerais pas du tout.
Roman d'horreur, roman gothique, roman policier, roman érotique, traité d'histoire, guide touristique, manuel d'architecture, science-fiction, humour noir. Tous ces genres coexistent dans le livre de Miloš Urban et se fondent dans un mélange original. Cette curieuse alchimie doit beaucoup sans doute à Horace Walpole, auteur du roman gothique Le Château de Trente, aux visions oniriques d'Alan Edgar Poe, à Gustav Meyrink, aux auteurs décadents tchèques Jiří Karasek et Julius Zeyer, mais aussi aux auteurs de best-sellers récents Umberto Eco et Dan Brown. Et le lecteur sent intensivement que l'auteur a subi encore une autre influence importante. C'est l'ombre omniprésente de Franz Kafka qui plane sur ce livre plein d'angoisse, de mystère et d'absurdité. Mais Miloš Urban exploite adroitement aussi l'élément policier, car il ne renonce pas à l'ambition d'amuser son lecteur et de le tenir en haleine.
Romány se začaly psát v historii proto, aby...
On a commencé à écrire les romans dans l'histoire pour amuser les gens. Et s'il y avait une valeur ajoutée, une conception personnelle de l'auteur, une vision originale du monde et de la société, même satirique, c'était toujours un plus.
C'est autour du rapport ambigu entre Vjeroslav Švach et Matthias Gmünd, chevalier de Lübeck, que se noue l'intrigue de ce livre. Le jeune policier devient assistant de Gmünd, homme influent, énigmatique et passionné de l'architecture médiévale de Prague. Il l'aide d'abord à répertorier les monuments gothiques de la ville, avant de commencer à soupçonner que les intentions véritables de Gmünd sont infiniment plus ambitieuses. À ce moment-là, cependant, il est déjà pris dans l'engrenage des événements auxquels il n'arrivera plus à échapper. Deux femmes représentent l'élément érotique dans ce récit. Rosetta, jeune policière, elle aussi assistante de Gmünd, et Lucie, jeune mère mariée à un vieux professeur d'histoire. Tiraillé entre ces deux femmes, Kvetoslav n'en finit pas d'essuyer les échecs amoureux. Miloš Urban se rappelle avoir cherché des scènes érotiques dans les livres de la Bibliothèque Rouge, collection de romans d'amour de basse catégorie, très prisés jadis notamment des lectrices tchèques.
C'était la seule et unique chose qui m'intéressait dans les livres de la Bibliothèque Rouge. Mais cela se dépose peut-être dans notre subconscient, et lorsque l'on cherche à écrire une scène d'amour avec les personnages que l'on a inventés, cela ressurgit, même si on y ajoute en général de l'ironie. La vision faussée du monde et des relations humaines doit être en même temps fracassée.
L'érotisme compliqué et complexé de Kvetoslav Švach n'est cependant qu'une des innombrables facettes de ce roman qui sert à son auteur aussi pour présenter toute une série d'idées critiques et provocatrices sur la société actuelle, sur l'art et l'architecture, sur notre rapport vis-à-vis du passé et sur les dangers et les punitions qui guettent la civilisation humaine se dirigeant allègrement vers de nouvelles apocalypses. Mais laissons au livre ses mystères pour ne pas gâcher le plaisir de ceux qui se décideront à le lire. Aujourd'hui, la liste des œuvres de Miloš Urban comprend déjà 6 romans noirs. Il a déjà cherché à changer de registre, sans succès. Tout ce qu'il écrit tourne toujours au noir, seule sa méthode de travail évolue.
Jak bych to řekl, psalo se mi lehce.
Comment vous expliquer? Tout d'abord, j'écrivais avec facilité, mais ces dernières années, ça devient moins facile. Je n'ai plus ces jaillissements d'idées subites lorsque le roman vous tombe soudain sur la tête comme une pierre et que vous ne savez pas que faire avec. Vous avez l'impression que c'est une idée fantastique, mais vous craignez de ne pas savoir comment en faire une œuvre littéraire. Ces dernières années, c'est un peu différent. Les idées sont un peu plus lentes à venir et parfois, ce que je veux dire ne devient évident que tout à fait à la fin du travail sur le livre. Il est vrai que c'est un peu plus amusant pour moi. Disons que ce n'est plus de la routine.
Le roman Les Sept Églises de Miloš Urban, traduit en français par Barbara Faure, est sorti aux éditions Au Diable Vauvert.
Et c'est ainsi que s'achève pour aujourd'hui le programme en langue française de Radio Prague. Merci de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute. Ahoy. Thank you.
Radio Praga.